et à toutes, bienvenue sur Radio Gaco. Cette émission est animée par des étudiants de BUT Gestion Administrative Commerciale des Organisations. Je suis aujourd'hui accompagnée de trois chroniqueuses, Romane.
Bonjour.
Clara.
Bonjour.
Et Elodie.
Bonjour.
Puis nous avons notre technicienne, Aude.
Salut.
Et puis moi, Léa, je suis là pour animer l'émission. Bienvenue dans notre émission Culture Flip, dédiée à l'actualité culturelle. J'ai d'abord une question pour vous, qui pourra paraître assez bête, mais est-ce que vous savez ce qu'il y a aujourd'hui à la place des tours jumelles au World Trade Center ?
Un mémorial, non ?
Oui, il me semble que c'est ça. D'ailleurs, Roman, tu peux nous en dire plus à ce sujet.
À la place des tours jumelles, c'est ça ?
Exactement.
Il y a des gigantesques bassins qui se trouvent aujourd'hui à la place et aux mêmes dimensions que celles des tours jumelles. Mais pour commencer, on va parler du coup d'un événement qui est encore dans toutes les têtes, les attentats du 11 septembre 2001 qui ont frappé les États-Unis. Et oui, cette année, nous avons fêté, façon de parler, le funeste 20e anniversaire du drame.
Ah ouais, déjà.
Oui, ça fait déjà 20 ans. Ouais. Ça pourrait paraître si loin pour nous, mais c'est en même temps tellement proche. Même si nous pensons toujours aux victimes et à leurs proches aujourd'hui, il est hors de question de déprimer. On va essayer d'égayer un peu le sujet. Comme nous explique l'excellent article d'Anne Corpé pour Radio France Internationale, des gigantesques bassins se trouvent aujourd'hui et à la place et aux mêmes dimensions que celles des tours jumelles, avec autour tous les noms des victimes de ces attentats. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir mis ces bassins.
Moi je trouve aussi.
Ouais, c'est une excellente idée.
Oui. C'est comme si, en quelque sorte, que les tours n'avaient jamais disparu et que leurs traces seront toujours gravées, que ce soit dans les mémoires ou dans la réalité. Donc il y a aussi l'énorme mur des disparus qui regroupe les photos de tous ceux qui ont perdu la vie ce jour-là, ou encore de nombreux témoignages qui circulent via des haut-parleurs des victimes et des pompiers qui étaient présents sur place. En lisant l'article, la phrase du vice-président du musée du 11 septembre est restée dans un coin de ma tête. « L'eau tombe et circule dans ce grand vide, elle représente l'éternité. »
Jolie citation.
Mmh. Exactement. Et c'est à ce moment que je me suis dit que la puissance de l'art est sans limite, que ce soit avec d'horribles événements comme celui du 11 septembre, ou encore pour dénoncer les horreurs du monde. Et c'est pour cela que je souhaite parler davantage sur ce sujet, pour que vous vous rendiez compte des choses que sont capables de faire les êtres humains, pour laisser une trace des actions des autres. Donc, pour être clair, nous allons parler des artistes engagés.
D'ailleurs, j'aimerais connaître votre point de vue. Que pensez-vous des œuvres engagées ? Est-ce une bonne chose ou faudrait-il des limites, selon vous ?
Moi, je pense que c'est une très bonne chose, parce que ça permet de dénoncer des choses... clairement, qui soit compréhensible pour tout le monde, parce que tout le monde peut comprendre un dessin. Après, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des limites pour pas apprendre pas que ça déborde, quoi.
Voilà, et c'est une manière de se recueillir également. Pour les familles, c'est très important.
Exactement. Alors moi, personnellement, je trouve que l'art détient un grand pouvoir, et les artistes doivent s'en servir pour dénoncer les choses qu'on ne voit pas forcément, ou alors qu'on décide de ne pas voir. Pour ouvrir les yeux au monde. Comme le dit si bien la phrase, la plume est plus forte que l'épée.
Exactement.
Donc dans un article très intéressant, posté sur le blog Zest par Lucie Noailles, on peut y voir beaucoup d'œuvres engagées. Je peux citer par exemple les œuvres d'Arthur Bordalo, connu pour ses œuvres faites à partir de déchets. En effet, toutes ses œuvres sont faites donc à partir de déchets polluants, comme le plastique ou des tuyaux. Le message dans ses œuvres est clair, dénoncer la société de surconsommation et les dangers qu'amènent le gaspillage et la pollution.
Mmh. Ça, c'est bien.
D'ailleurs, pouvez-vous me citer d'autres œuvres d'art engagées ?
Je pense qu'on pense tous à Banksy.
Oui.
Oui. Après,
et à peu près toutes ses œuvres.
Oui, le street art pour remercier oui, voilà, les infirmiers, les infirmières.
Pendant la période du Covid.
Oui, voilà.
Exactement. Comment parler d'artistes engagés sans parler des street art de Banksy ? Donc Banksy, il est mondialement connu pour ses œuvres réalisées dans la rue et pour dénoncer les nombreux problèmes de la société. J'ai notamment les hirondelles à Clacton. Donc on peut voir un groupe de pigeons insulter une hirondelle parce que justement elle est différente. Donc son œuvre dénonce le racisme et elle a aussi d'ailleurs été effacée. Ou encore celle sur les conditions de vie des sans-abri. Donc on peut y voir un renne du Père Noël au-dessus d'un banc qui avait l'habitude de dormir, un SDF. Donc ce street art, il est à Birmingham. Les nombreuses réactions que peut recevoir Banksy, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, montrent la puissance qu'un simple dessin, si je puis dire, peut avoir sur les pensées des hommes.
D'ailleurs, il n'y a pas un Banksy à Calais qui parlait des migrants.
Exactement, il parle des migrants. On peut voir... un corbeau sur une longue vue d'un enfant. Pour conclure, c'est grâce, si je puis dire, à des événements terribles comme le 11 septembre que nous pouvons voir le talent de certains pour remémorer de terribles incidents, mais qui ne doivent pas être oubliés pour autant. Mais aussi, ces œuvres montrent la puissance de l'art s'il est bien utilisé, notamment pour dénoncer.
Et ça permet également aux jeunes générations comme nous de ne pas oublier.
Ouais, et oui, encore, ça c'est encore une bonne idée.
Exactement, pour celles qui naîtront après nous. Mm-hmm. Et oui. Pour ne pas oublier, justement, si on n'oublie pas, normalement, on ne reproduit pas des choses comme ça.
Voilà. Normalement.
Normalement.
Après,
on espère. Après, les œuvres, c'est aussi un bon moyen pour dénoncer, on va dire, pacifiquement.
Voilà,
pour éviter, pour éviter la violence, exactement.
En tout cas, j'ai trouvé cette chronique très intéressante.
Oui, très. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses.
Je me souviens d'ailleurs avoir vu un film relatant les événements du 11 septembre. Ce film m'a beaucoup marqué d'ailleurs, car il est vraiment très représentatif de ce qui s'est passé ce jour-là.
Très triste.
Oui, effectivement. D'ailleurs, nous allons maintenant rebondir sur les séries. Elodie, peux-tu nous parler de La Casa des Papel ?
Voici un petit extrait de la bande-annonce de La Casa des Papel, en particulier de la saison 5.
Tokyo est morte.
On voit les visages de ceux qu'on a déçus. Et ça fait l'effet d'une épée enflammée qui nous traverse la poitrine.
Nous sommes ici pour remplir une mission, en finir avec ce braquage. Et c'est ce que nous allons faire.
Donc pour le plaisir des fans de La Casa des Papel, la saison 5 a vu le jour sur Netflix début septembre. Pourtant, les fans ne devront pas être trop gourmands concernant cette saison qui va se faire en deux temps.
Oui, effectivement.
La deuxième partie ne sortira qu'en décembre. Léa, tu vas devoir être patiente.
Oui, un peu de patience.
Cela nous donne donc le temps de revenir sur cette série événement qui a fait un véritable buzz pour la plateforme Netflix. Pourtant, nous pouvons nous demander si c'est vraiment la fin de cette série. Parce que le créateur Alex Pina a affirmé pour le site L'Internaute, après la partie 5, nous allons réfléchir à ce que nous ferons ensuite. Pour l'instant, nous n'avons pas de projet pour le retour de La Casa des Papel. Ainsi, pour avoir un peu plus de précision sur ce sujet, j'ai mené quelques recherches pour avoir une réponse. J'ai donc une hypothèse dans laquelle nous allons retrouver nos personnages favoris dans des spin-offs. Parce que, en fait, Alex Pina nous a affirmé, nous pourrions les suivre dans d'autres contextes, donc nous allons pouvoir notamment retrouver le personnage de Tokyo.
Mais d'ailleurs, qui sont les personnages de la saison 5 ?
Alors j'attendais cette question avec impatience. D'après la journaliste Jessica Kelling, donc elle travaille pour Téléstar, les adeptes de cette série retrouveront dans cette saison leurs personnages favoris, dont le professeur, Tokyo, Ryo, etc. Mais il y aura aussi un acteur dont on nous fait partager l'internaute, donc Miguel Angel Silvestre. Donc je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Donc nous pouvons voir qu'avec le synopsis de cette première partie, ça va être très palpitant. Donc en effet, d'après Allociné, ces braqueurs ont pour projet de cambrioler la banque d'Espagne pendant plus de 100 heures. Donc c'est quand même énorme.
Assez conséquent, ouais, carrément.
Le point positif, ensuite, c'est qu'ils vont réussir à secourir Lisbonne. Mais va se dérouler dans cette partie l'un des moments les plus émouvants, je trouve.
Ah oui, je confirme.
Avec le décès de l'un d'eux.
Prévoyez les mouchoirs.
Ah oui.
Attention, spoiler.
Donc, concernant le professeur, il va se retrouver coincé entre les mains de Seria. Et c'est bien la première fois qu'il ne va pas réussir à s'en échapper. Donc pourtant, au moment où la situation de chacun va s'améliorer, leur espoir de réussir et de s'en sortir va très vite disparaître, notamment avec l'arrivée de l'armée, où suspense et violence seront au rendez-vous.
D'ailleurs, avons-nous des informations sur la deuxième partie ?
Alors oui, aujourd'hui j'ai désormais des informations à vous partager. Donc la deuxième partie, elle va comporter également 5 épisodes, donc c'est très court.
Ah, oui, effectivement.
Donc en fait, selon un communiqué qui nous a transmis Netflix, nous allons retrouver des réponses aux questions que nous nous posons toutes et tous. Donc notamment, est-ce que le professeur va s'en sortir ? Est-ce qu'ils vont vouloir se venger de la mort de leurs camarades ?
Je pense que oui.
Ah oui. Je te conseille de regarder la deuxième partie pour avoir la réponse.
Ah, je comptais le faire. Selon vous, est-ce que la Casa des Papel est victime de sa popularité?
Alors, je dirais que non. Plutôt, en fait, elle profite parce qu'en fait, c'est la série la plus vue et connue de Netflix. Donc, en effet, d'après notre sondage, plus de la moitié des personnes connaissent et ont déjà vu cette série. Donc, je pense que vous la connaissez.
Oui, elle est vraiment très connue.
Après, déjà vu, je ne sais pas.
Non, pour moi,
c'est donc, de plus, selon Kublik, La Casa des Papel est la deuxième série la plus visionnée de Netflix, donc notamment pour son action, ses personnages, donc en particulier pour le professeur.
Ouais, c'était assez original, en plus.
Oui. Bah, j'ai jamais vu...
Ah, il a une intelligence hors du commun.
Oui. Et c'est pour ça que, en fait, un livre est sorti... Donc, il se nomme La Casa des Papel, le livre Escape Game, édité par Hachette Hérault. Donc, ici, le lecteur, il est amené à répondre à des énigmes pour retrouver le butin. Et, en fait, il va se retrouver dans le cerveau du professeur.
Très envie de l'acheter.
Il est encore disponible sur la Fnac.
Parfait.
Si tu veux.
Mais ensuite... Elle a pris note.
Je pense un petit cadeau pour ton anniversaire.
Voilà. Oui.
Parfait, ça me plaît beaucoup.
Donc, ensuite, des événements voient également le jour avec comme thème principal la Casa des Papel, donc comme le Festival des Insomnies qui a eu lieu le 23 octobre 2021, où ici, les participants sont invités à s'habiller en rouge. Donc, les organisateurs vont leur distribuer des masques, les fameux masques. Je sais pas...
Ah, si, oui, les masques. Oui. Les masques de Dali.
Exactement. Oui.
Et ils vont également lancer des faux billets avec une décoration de la Casa des Papel.
Je pense que ce soit des
faux. Je pense que ça créerait un petit peu
oui.
des problèmes.
Oui.
Effectivement.
Donc, pour conclure, nous voyons que cette série est très populaire et plaît à nombreux d'entre nous. Les fans sont assez déçus que ce soit la fin de cette série et aussi du fait qu'elle se fait en deux temps.
Très déçus, oui.
Cependant, d'autres séries ont tellement plu que les téléspectateurs sont impatients de voir les prochaines saisons comme Sex Education, Squid Game, Elite et plein d'autres encore.
Tellement plu, mais on va supprimer la suite d'autres séries, je dirais rien de plus. Exactement.
J'effacerai cette partie.
D'ailleurs, si le réalisateur m'entend, il faudrait faire quelque chose. Donc, franchement, moi j'ai trouvé cette chronique très intéressante.
Oui, moi ça m'a...
On est fan, donc forcément...
Ouais, bah, par exemple, toi, en étant fan, t'as reconnu plein de choses. Ah, et oui. Moi, même Roman, en n'ayant jamais vu la série, ça donne envie de la regarder, d'aller plus loin et même de découvrir les choses qui ont été faites en parallèle par rapport à la série.
Je sais pas si tu l'as déjà vu, Claire.
Non, j'ai pas vu non plus.
Parce que moi, je suis pas très fan normalement, mais c'est vrai que ça donne envie.
Et d'ailleurs, en parlant de festival, Clara va vous parler de musique.
Effectivement. Alors, j'ai une petite question pour vous. Avez-vous déjà entendu parler de Vianney, Petit Biscuit ou même encore de Thérapie Taxi?
Oui, bien sûr.
Comme je m'y attendais, c'est un oui à l'unanimité, comme je pense vous aussi, chers auditeurs. Alors, ces trois artistes sont très différents de par leur style de musique et pourtant ils ont tous un point commun. Ils ont tous les trois été à l'affiche du festival de musique appelé La Bonne Aventure.
Alors, qu'est-ce que La Bonne Aventure?
Comme je viens de le dire, c'est un festival de musique qui regroupe une grande variété d'artistes depuis 2017 et qui se déroule le temps d'un week-end durant l'été. Mais l'une des grandes particularités de ce festival est qu'il est entièrement gratuit.
C'est trop bien.
Ce festival n'a rien à envier au plus grand, car en plus d'avoir rassemblé plus de 40 000 personnes de tout âge cette année, il a lieu au cœur de la station balnéaire de Dunkerque à Saint-Malo. Vous l'avez donc compris, La Bonne Aventure est très appréciée de son public, mais pas que. Les artistes aussi se plaisent à l'ambiance chaleureuse de notre Côte d'Opale. Terminer la saison par Dunkerque, c'est vraiment un luxe, d'après les dires de Vianney en personne. Mais aussi un membre du groupe IAM qui lance que Dunkerque, c'est chaud comme à Marseille. En plus de la grande scène installée sur le parvis du Kursaal, de nombreuses animations sont généralement prévues tout au long du week-end, que ce soit sur la place du Centenaire ou sur la digue de Malo. J'ai envie de dire, quoi de mieux que de vivre un bon moment en musique tout en ayant presque les pieds dans l'eau? Eh bien, comme je vous l'ai mentionné, c'est qu'en plus de ça, ce festival est entièrement gratuit. En plus de l'entrée, les transports proposés par Dunkerque en bus et en navette pour accéder au festival sont eux aussi gratuits.
Tout nous pousse à y aller,
dis-moi. Oui, c'est pas ce qu'on attend, mais...
Mais ouais. C'est parti.
Mais aussi, si vous préférez le vélo, vous pourrez laisser le vôtre en toute sécurité le temps du festival, car un parking y est dédié. On remercie donc la ville de Dunkerque, sa communauté urbaine, ainsi que la région de financer ce projet et de nous offrir cette belle opportunité.
Merci beaucoup.
Oui, merci.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les artistes qui s'y produisent ?
Alors, oui. Cette année, après 2 ans sans festival, la scène de Dunkerque a eu la chance d'accueillir des artistes renommés tels que le jeune chanteur Vianney, le groupe mythique IAM ou encore la talentueuse Tila, connue avec son titre « Si j'étais un homme ». Comme chaque année, il y en a un peu pour tous les goûts, en passant par du rap avec Lala Ice, de l'électro avec MYD et Yolande Bashing, un mélange de pop, disco et chansons françaises avec Weekend Affair, mais aussi de la chanson traditionnelle avec Fatoumata Diawara.
Pas de kinésie.
Non,
non.
J'écris. C'est pas ça.
Durant les années précédentes, de grands noms et des artistes internationaux ont également fait leur apparition au plus grand bonheur des spectateurs. Je peux vous citer Célassou, Petit Biscuit, Thérapie Taxi, Giorgio ou encore le groupe Skip the Use qui était programmé pour l'édition 2020, qui a malheureusement été annulé.
Et en plus, ils viennent de chez nous.
Eh oui. Si vous aimez le monde de la musique et que vous souhaitez aussi profiter du festival d'un autre point de vue, vous avez la possibilité de devenir bénévole. Cette année, 130 bénévoles ont été recrutés. Ne laissez donc pas passer votre chance. Vous pourriez aider avant le festival à la communication, par exemple, mais aussi pendant le festival en participant à l'accueil des artistes ou bien après le festival en aidant pour le démontage du site.
La communication dans nos études, ça nous connaît.
Oui.
pour se faire une première expérience.
Oui, c'est pratique.
Ouais, ça pourrait être vraiment très intéressant. Oui. Et puis, ça, c'est une occasion de se rapprocher des artistes. Donc,
Oui, peut-être un avenir là-dedans.
Tentez votre chance.
Ouais, oui, ça nous plaît vraiment et de peut-être trouver une idée de futur métier.
Voilà.
Ouais. Pour ça, rendez-vous donc sur le site officiel du Festival de la Bonne Aventure, si ça vous intéresse. Avec tous ces avantages, vous n'avez plus de raison de ne pas y aller. Le Festival La Bonne Aventure vous donne alors rendez-vous en juin 2022 à Dunkerque pour rendre un de vos week-ends d'été inoubliable avec de nouveaux artistes, une bonne ambiance et, on l'espère, du soleil.
Je sais pas vous, mais moi, je connaissais pas du tout déjà.
Bah ouais,
j'avais même pas été au courant que ça avait été annulé.
Surtout que c'est vraiment côté de chez nous. Ouais, de chez nous,
ouais. Ça me donne vraiment envie d'y aller. Ouais. Surtout que c'est gratuit, il y a aucune excuse en fait.
Même j'espère les croiser quelques auditeurs.
En plus, c'est en été. Donc c'est pas
fait. C'est genre, on est peut-être dans le nord, mais en été il fait chaud.
Oui, voilà.
En vrai, c'est
puis près de la mer, tout ça.
Vraiment intéressant.
C'est pas mal. Un petit tour sur la plage après.
Donc je vous remercie pour vos chroniques, elles étaient vraiment très intéressantes. Donc on va jouer un petit jeu. Donc bienvenue dans la Minute Culture. Pour ce jeu, Odd et Léa vont nous poser un certain nombre de questions concernant leurs chroniques. Moi, Clara et Elodie, on va essayer de répondre à leurs questions. Donc c'est Odd qui va commencer avec ses questions.
Donc tout d'abord, j'ai une petite question. Est-ce que vous pouvez me citer des films en rapport avec l'espace ?
Star Wars.
Interstellar, qui est très touchant d'ailleurs.
Gravity.
Les Gardiens de la Galaxie.
Paul.
E.T. Mon enfance.
Seul sur Mars. Il y a aussi Jupiter Ascending, par contre celui-là je vous le conseille, il est incroyable.
Il y a
sur Netflix en plus.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a aussi par exemple en mythique, il y a Alien, Armageddon aussi.
Oh la base.
Vraiment des très bons films que je vous conseille.
Je suis pas surprise mais ravie de la culture de nos chroniqueuses. Vraiment impressionnant. Ensuite, j'ai une autre question. Du coup, est-ce que vous connaissez des messages que nous avons envoyés dans l'espace en espérant d'avoir potentiellement une réponse d'une vie extraterrestre ?
Alors, pour le coup, pas du tout.
Non, j'en ai entendu parler, tout.
Moi, je pense qu'ils ont envoyé une capsule, mais par contre, on n'aura pas de... Enfin, le temps qu'elle arrive, tout ça, on n'aura pas de réponse très longtemps.
En 1974, en fait, il faut savoir que ça date vraiment. Les messages qu'on a envoyés, il n'y a pas... par exemple, le message d'Arecibo, on l'a envoyé en 1974, donc ça date quand même. Et en fait, c'était un message où il y a en code binaire, c'était une image en code binaire qui représentait une silhouette humaine, le nombre d'humains qu'il y avait sur Terre à l'époque, et aussi le système solaire, tout ça pour permettre de comprendre s'il y a une vie extraterrestre, qui permettent de comprendre que nous existons et comment on existe. Mais cependant, comme il y a quand même, avec les années-lumière, tout ça, si on a une réponse, on l'aurait que dans 50 000 ans.
Donc, okay.
Mais ouais, on a envoyé quand même pas mal de... Enfin, pas mal. Des messages, mais par exemple en 1972, on a envoyé, on avait fixé une plaque en or sur une sonde qui représentait pareil des êtres humains, le système solaire, tout ça, pour espérer d'avoir une réponse. Et on a envoyé aussi un disque d'or en 1977 avec des sons ambiants de la Terre, des chansons connues de l'époque, non, etc.
C'est vraiment bien.
Et ouais, donc on espère recevoir une réponse. Après, si je peux donner un. Enfin, une critique, si je peux critiquer cela, c'est juste qu'on envoie ça en espérant recevoir une réponse, mais on ne sait pas si, s'il y a une vie extraterrestre, si elles sont capables de recevoir nos messages et de les écouter.
Et de les comprendre.
Et puis s'ils sont gentils. Peut-être qu'ils pourraient prendre ça pour une menace.
Ouais, tout à fait. Donc en plus, si nous avons reçu une réponse, bah, on n'est pas prêt.
Ouais, peut-être même si on reçoit une réponse, on ne sera pas non plus la lire.
On a déjà reçu une réponse, mais on n'a pas compris ça comme ça et... Bref, c'est très intéressant.
On est comme dans Men in Black.
Et du coup, j'ai une toute dernière question. D'abord, très en rapport avec l'actualité. Est-ce que vous pouvez me donner le titre qu'a reçu Thomas Pesquet ?
Il est devenu le premier commandant français de l'ISS ?
Alors, c'est exactement ça. Donc, on est vraiment très fiers de lui, puisque c'est le premier français à avoir reçu ce titre. Et du coup, on espère qu'il ira beaucoup plus loin, qu'il représentera la France, même s'il a déjà représenté, mais qu'il la représentera encore plus loin. Parce que j'ai vu qu'il y a un projet comme quoi Thomas Pesquet va peut-être potentiellement aller sur la Lune.
Il est d'ailleurs revenu sur Terre il y a 2 jours,
ouais,
à 3h33, exactement.
Oui.
Et donc c'est une très grande fierté pour la France.
Alors, merci beaucoup, Aude, pour les questions. C'était vraiment très intéressant. Puis pour les auditeurs, vous aurez des petites idées de... film, si vous savez pas quoi regarder au soir.
Oui.
Donc maintenant, on va passer aux questions de Léa, qui va nous parler de manifestations, si c'est
exactement
bien ça.
Donc moi, ma chronique abordait surtout le thème du développement durable. Donc, avez-vous déjà entendu parler de manifestations à propos du climat, des manifestations étudiantes, quoi que ce soit?
Oui, la marche pour le climat.
Exactement.
Ouais, j'en entends parler, mais... je sais pas, je me suis pas vraiment renseignée, quoi.
Moi non plus, enfin, j'en entends parler, mais je trouve ça très intéressant. Ça prouve que les jeunes sont dans...
sont investis.
Ouais, voilà, que les jeunes sont investis.
S'intéressent à l'actualité,
exactement.
Puis c'est à nous aujourd'hui d'essayer de changer les choses, de réparer
les erreurs passées,
du passé.
Donc, ouais,
ça montre une petite évolution aussi.
Des mentalités.
Oui, voilà.
Exactement.
Et ensuite, connaissez-vous des films qui abordent le sujet du développement durable ?
Il y a Demain, non ?
Oui, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent en 2015, exactement.
Il y a eu un film fait par un photographe français.
Moi, j'en ai pas entendu parler, mais j'ai entendu parler d'un film fait par un photographe allemand.
Exactement, L'Illusion verte.
Et voilà, c'est ça.
Donc, c'était un film très intéressant qui abordait surtout le sujet du greenwashing, c'est-à-dire le fait que les entreprises mentent aux consommateurs pour verdir leurs images.
Et je peux vous dire qu'après avoir vu le film, on peut plus faire confiance aux marques.
Ouais, c'est clair.
Complètement. Et je trouve que ce film est assez angoissant.
Oui, avec la forêt amazonienne.
Qu'on pense que
c'est
il y a
que les choses
que,
évoluent,
voilà,
ouais,
choses
c'est toujours pire.
Qu'il y a du positif, bah on nous rappelle qu'en fait non.
Voilà, exactement.
Et ouais.
C'est compliqué d'être optimiste.
Ouais, c'est exactement dans la période actuelle.
Oui.
Et donc en troisième question, dans ma troisième partie de chronique, j'abordais le sujet de la littérature. Donc pensez-vous que créer des livres évoquant des sujets de développement durable pour les jeunes ou de problèmes de climat, etc., soit une bonne chose pour eux? Ou est-ce que ce sont des sujets trop négatifs?
Non, c'est positif.
Moi, je pense que,
hein.
Justement, il faut qu'on sache ce qui nous attend si on ne change pas nos habitudes collectives, tout ça. Et je pense que ça peut les aider à développer leurs propres opinions.
Voilà.
Et pas fermer les yeux sur les problèmes, il faut en parler. Parce que,
Et donc, agir différemment que les autres générations.
Oui, exactement. Pour changer leur façon de consommer.
Bah oui, parce que bon.
Oui,
c'est vrai. Comment c'est parti si tout. Enfin, il faut combien de terres déjà pour
au moins. Ah, la date de dépassement, elle est
oui. Pire. Ouais, il nous en faut deux ou trois, je crois.
Ouais, pour la France.
Bah, déjà, on a déjà utilisé toutes les ressources disponibles cette année.
Bah ouais.
Donc, alors qu'on est qu'au mois de novembre. Et encore, ouais. C'était, je pense, au mois de juin ou au mois de juillet.
Ah oui, au mois de juin, il me semble.
Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose et qu'il faudrait justement peut-être même plus en parler à l'école.
Oui.
Et dès le plus jeune âge, pour comprendre, pour faire comprendre directement aux enfants qu'il faut respecter.
Venez en GACO.
Oui, voilà.
Si on parlerait. Ah oui, si on peut passer une petite pub. On a justement un projet en rapport avec le développement durable et c'est très intéressant. Et ça nous permet voilà. Aussi de... Parce qu'on peut penser... On sait que c'est négatif, que ça va pas. Mais on sait pas que ça va pas à ce point-là.
Voilà.
Et que du coup, ouais, ça peut nous permettre...
Ça rend pas réellement compte, oui.
Ouais, de faire changer nos avis.
Exactement. Merci pour ces réponses, en tout cas.
Ouais, merci pour les réponses. C'était vraiment très intéressant. Mais malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission. Donc je remercie ma co-animatrice, Léa, de m'avoir accompagnée durant cette émission.
De rien, c'était un plaisir.
Et je remercie aussi nos chroniqueuses favoris, Clara et Elodie, pour leur implication et leur spontanéité.
Avec plaisir.
Oui. J'avais dit spontanéité, Clara. Et aussi, on remercie également beaucoup notre technicienne Aude de nous avoir suivis.
Aucun souci.
Clara, ne s'en remets pas, désolé. Alors, il s'agissait de notre dernière émission, mais vous pourrez retrouver le travail de nos GACO 1 de l'année prochaine. Je vous remercie de nous avoir suivis tout le long. L'émission se retrouvera sur le site www.studiogaco.fr pour retrouver toutes vos émissions favorites, dont la nôtre. Et aussi, si vous voulez découvrir les autres émissions...
Les émissions des autres GACO.
Exactement. Et vous pourrez aussi réagir sur le Twitter de l'émission.
Bah, merci à tous.
Merci à tous.
Merci. Au revoir. Au revoir.
J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment,
vous
notre compagnie.
On aura appris plein de nouvelles choses.
Et qu'on vous aura partagé notre bonne humeur.
Voilà,
exactement.
Tout à fait.